Bienvenue aux enregistrements de l'Église chrétienne Source de vie. Nous croyons que ce message vous aidera à voir et à obtenir votre plein potentiel en Jésus-Christ. Bonne écoute.
Ce matin, on a notre tout premier invité à l'Église Source de vie, Pasteur Ken Taylor de Drummondville. Tu peux venir tout de suite si tu veux. Ça nous fait vraiment plaisir de l'avoir comme premier invité. On se connaît depuis longtemps. Je sais pas si tout le monde connaît l'histoire, mais si vous êtes bien assis confortablement, premièrement, ce matin, c'est vraiment grâce à Pasteur Ken et l'Église de la Vie Comblée de Drummondville qui nous ont généreusement permis d'utiliser leurs chaises supplémentaires qu'ils n'utilisaient pas pour l'instant. Alors, on est bénis par ces chaises. C'est vraiment un généreux don de votre part. On est bénis et on est bénis de vous avoir comme premier invité. Comme j'ai dit, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, j'avais 8 ou 9 ans. Et il a prié pour moi pour que je sois baptisée du Saint-Esprit. Et je pense qu'il est reparti. Ils sont revenus s'établir au Québec. Je me souviens plus j'avais quel âge, mais quelques années plus tard. Qu'on soit ici aujourd'hui, que tout soit possible. Chaque personne a une influence dans nos vies. Et Pasteur Ken et Tania en ont une grande dans la mienne. Et je suis bénie de vous accueillir dans notre église ce matin. Alors, merci d'être là. Soyez prêts et attentifs. On sait qu'il va y avoir un message spécifiquement pour chacun de vos besoins. Que vos besoins soient différents un et l'autre. Pasteur Ken va exactement toucher vos besoins par le Saint-Esprit ce matin. Amen.
Amen. Merci, Suzy. Nous sommes tellement ravis d'être là avec vous ce matin. Et c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. Et la bénédiction est réciproque. Suzy était vraiment une bénédiction pour nous et notre famille. En fait, tu étais notre gardienne. On a 5 enfants et elle a gardé les enfants pendant... Ouais, exactement. Donc, nos enfants ont vraiment été bénis par Suzy. Donc, que le Seigneur est bon. Amen. Et on se sent chez nous avec les chaises et tout, hein? C'est bien. Mais honnêtement, je veux vous dire que nous sommes ravis, ma femme et moi, d'être là. Quel honneur, quel privilège d'être le premier invité dans cette belle église. Et le Seigneur est bon. Si on pense à cela, donc ça fait le mois de mai, je pense, vous avez eu votre première réunion et seulement depuis le mois de mai, laisse-moi vous dire que félicitations et gloire à Dieu, le Seigneur fait une grande chose ici à Trois-Rivières. Amen. Moi, je ressens dans mon cœur que ce n'est que le commencement, ce n'est qu'une petite semence de qu'est-ce qui s'en vient. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Moi, je sais que Jésus-Christ est celui qui bâtit son Église et les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. Donc, moi, j'ai la pleine conviction que cette Église va grandir, cette Église va fleurir, cette Église va se multiplier et nous sommes vraiment, vraiment ravis de voir cela et que le Seigneur est bon de vous envoyer, Pasteur Brian et Suzy et leur famille, pour être les bons bergers de ce troupeau. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour vos pasteurs ce matin? Amen, amen. Est-ce que mon micro est ouvert? C'est correct? C'est bon? Excellent. Mais c'est super, super bon de vous voir ce matin et j'ai hâte de partager la parole de Dieu. Combien de vous, vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir quelque chose qui est destiné à vous aider à grandir et à atteindre le maximum de votre potentiel aujourd'hui? Combien de vous voulez recevoir cela? Alors, donc il y a une chose qu'on aime faire, et pour ceux et celles qui savent pas, ça fait quand même un petit bout de... Ma femme et moi, on s'est mariés. En fait, on a terminé l'école secondaire en 1985. On était à 150 000 de distance parce qu'elle était dans un petit village de sud-est du Missouri aux États-Unis. Moi, j'étais à Saint-Louis, mais on s'est rencontrés dans un camp de journalisme dans le nord du Missouri. Et on est tombés en amour à l'âge de 17 ans et on a terminé l'école secondaire le mois de mai, on s'est marié le mois de juin, on a déménagé en Oklahoma le mois de juillet, on a commencé l'école biblique en septembre et dans cette période, le Seigneur mettait dans notre cœur vraiment une passion, une vision pour le monde francophone. Je vais vous raconter un peu de cela un peu plus tard parce que ça va de pair avec le message, mais le Seigneur, il avait un plan pour notre vie. Et ce plan comprenait qu'on vienne au Québec. Et donc, on habite ici au Québec maintenant depuis 24 ans, presque 24 ans. Et on est pasteur à Drummondville depuis à peu près 23 ans. Et donc, dernièrement, on a fait une transition. On est encore à Drummondville, mais Pasteur Ken Mafou a pris le relève pour la gestion quotidienne de l'Église La Vie Comblée. Et nous continuons à œuvrer pour faciliter l'implantation des églises, établir les écoles bibliques et faire les publications, les médias pour les pays de la francophonie. Donc, on a l'école biblique de Réma à Drummondville. Et puis, on avait aussi des campus à Montréal et à Québec. Mais maintenant, c'est juste à Drummondville. On a commencé une école du centre de formation en Haïti également en 2012. On était juste récemment en Afrique, dans l'Ouest. Et le Seigneur fait des grandes choses pour ouvrir des écoles bibliques là-bas. Donc, le Seigneur fait des bonnes choses. Et combien de vous savez qu'il n'y a rien qui est plus agréable, plus excitant et plus bénéfique que de faire la volonté de Dieu dans sa vie? Amen. Et c'est vraiment ça que je veux vous parler aujourd'hui, parce que je sais que Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas des chouchous dans sa famille. Il n'y a pas de favoris. Dieu nous aime tous de la même manière. Amen. Et Dieu a un plan pour votre vie, comme il a un plan pour notre vie, et il a un plan pour son Église. Il a un plan pour son Église universelle. Il a également un plan pour chaque Église locale, y compris cette Église ici à Trois-Rivières. Amen. Et on va voir cela ensemble. Mais avant d'aller dans la parole, une chose que nous aimons faire à notre Église depuis des longues années, c'est une déclaration avant d'aller dans la Bible. On aime déclarer avec notre bouche, en croyant du cœur, parce qu'il y a un principe dans la parole qui nous enseigne que ce qu'on dit avec sa bouche, en croyant du cœur, s'accomplira. Amen. Donc, si vous avez une Bible, je vous invite à prendre votre Bible. Sinon, peut-être vous êtes comme moi aussi, j'aime utiliser mon téléphone, il y a iPhone, iPad, quoi que ce soit avec une Bible. Ou sinon, approchez-vous de quelqu'un qui a une Bible et on va dire ceci. On va dire, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé, transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Alléluia. Amen, amen. Donc, j'aimerais vous inviter à aller avec moi en Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Et aujourd'hui, on va parler de comment vous et moi, on peut donner naissance au plan de Dieu pour notre vie. Comment donner naissance au plan de Dieu pour notre vie. Et donc, c'est important parce que je crois fermement que Dieu a un plan pour chaque personne ici présente. Il a des projets qu'il a formés sur vous avant la fondation du monde. En fait, Jérémie 29:11, on n'a pas besoin d'y aller tout de suite, dit que Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est des projets de paix et non de malheur. Et il y a des bonnes choses que Dieu a projetées et il a dessinées pour la vie de chaque personne ici présente. Amen. Il y a un verset que pour moi a été depuis longtemps un verset clé et en fait c'est un de mes versets de vie. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui m'ont interpellé et qui me parlent encore et encore et encore et qui ont vraiment marqué ma vie. Et le verset qu'on va regarder tout de suite, c'est un de ces versets, c'est en Actes chapitre 13. Et donc on va parler ici du roi David. Et en verset 36, parce que vous vous rappelez de l'histoire, David a remplacé en fait le roi Saül qui avait désobéi à Dieu, qui n'avait pas suivi le plan de Dieu pour sa vie complètement. Et Dieu a dit, en fait, plutôt en Actes chapitre 13, et on peut reculer un peu, verset 22 dit ici en verset 22, qu'il suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, David était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Combien de vous, vous aimeriez avoir ce témoignage de la part de Dieu? Que quand Dieu parle de vous, il dit, ah, ça c'est une femme, ça c'est un homme selon mon cœur. Mais c'est quoi qui a fait de David un homme selon le cœur de Dieu? Il était prêt à accomplir toute la volonté de Dieu. Et donc, et c'est pourquoi plus tard, dans ce chapitre, si on regarde verset 36, or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, il est mort. Okay? J'aimerais bien que vous souligniez quelque chose. David, après avoir servi en son temps, quelques versions disent dans sa génération, après avoir dans sa génération servi au plan de Dieu, il est mort. Donc, il y a plusieurs choses. Ce verset m'interpelle sur plusieurs points. Premièrement, on voit que Dieu a quelque chose que chaque personne sur la planète Terre est destinée à faire. Il y a une contribution à faire au plan de Dieu dans cette génération. Hein? Regarde quelqu'un à côté de toi et dis, tu as une contribution à faire. Hein? Vous avez quelque chose à contribuer au plan de Dieu. Et nous avons besoin de votre contribution. En tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant que corps de Christ, nous avons besoin de votre contribution. Il faut que vous fassiez ce que Dieu vous appelle faire, sinon le corps n'est pas complet. Hein? Vous savez que vous avez plusieurs membres dans votre corps et chaque membre a une contribution à faire pour faciliter vraiment l'action du corps et l'accomplissement de tout ce que vous voulez faire dans une journée. Tous les membres de votre corps doivent coopérer. Amen. Si vous avez besoin d'aller à l'épicerie ou aller au travail ou aller jouer au golf, peu importe, il y a une contribution que la main doit faire, les doigts doivent faire, les pieds, les genoux, le cerveau, les yeux, les oreilles. On a besoin d'un corps qui collabore, qui va contribuer à vraiment quelque chose de spécifique pour voir l'accomplissement du plan. Amen. Et c'est la même chose dans cette église, c'est la même chose dans n'importe quelle église. Vous avez, en tant que membre d'une église, une contribution à faire. Et vous avez quelque chose à contribuer au plan de Dieu dans votre génération. Donc, ça m'interpelle parce que ça me rappelle la réalité que je ne suis pas sur la terre par hasard, mais Dieu a une raison, j'ai une raison d'être sur la planète Terre. Hein? Tout le monde dit « j'ai une raison d'être ». Alléluia! N'est-ce pas encourageant? Vous n'êtes pas ici par hasard, même si vous, selon vos parents, parce que je connais des personnes qui disent, oh oui, mon père, ma mère m'ont dit que j'étais un accident. Mais vous n'êtes pas un accident aux yeux de Dieu. Hein? Peut-être les parents se sont trompés, mais Dieu ne s'est pas trompé. Et vous êtes là pour une raison, et c'est une bonne raison. Mais j'aime ce verset parce que, on voit que David, un homme selon le cœur de Dieu, il a contribué au plan de Dieu dans sa génération et après, il est mort. Après, tout le monde dit après. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort avant d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Et une chose, la raison que ça m'interpelle, c'est parce que, laisse-moi vous dire que moi, j'ai commencé à prêcher, j'avais 17 ans. Et ça m'a été révélé assez tôt dans ma vie, ma raison d'être sur la terre. Je savais pourquoi j'étais là. Je savais que le Seigneur avait un plan pour nous dans le ministère et tout. Mais laisse-moi vous dire que l'ennemi, parce que la Bible dit que nous avons un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant et il cherche celui qui peut dévorer. Et laisse-moi vous dire que quand vous commencez à découvrir le plan de Dieu pour votre vie, l'ennemi ne va pas croiser les bras et dire « Oh, tant pis, j'ai perdu cette fois-ci, je vais aller trouver quelqu'un d'autre. » Non, c'est vraiment le contraire. Dès que vous marchez dans le plan de Dieu, l'ennemi va essayer, il va tout faire pour vous arrêter. Mais voici une bonne nouvelle. On peut lui résister avec une foi ferme et si vous résistez le diable, il va prendre la fuite. Amen. Et c'est pourquoi, dans ma vie, j'ai eu des occasions, je peux pas vous dire combien de fois j'ai été attaqué dans mon corps, j'étais avec la maladie ou avec toutes sortes de symptômes bizarres et l'ennemi me disait que j'allais mourir. L'ennemi disait à ma femme que j'allais mourir. Quand j'ai, même avant d'avoir 30 ans, j'avais toutes sortes de choses qui m'attaquaient. Les médecins pensaient que j'avais un tumeur au cerveau, c'était pas ça, peut-être une sclérose en plaques, toutes sortes de problèmes neurologiques, mais j'avais besoin de dire non, je refuse de mourir avant d'avoir accompli le plan de Dieu pour ma vie. Amen. C'est pourquoi c'est bon d'être dans une église comme cette église ici, qui enseigne les vérités de la parole, qui croit que Dieu est le même et que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as un pasteur qui a déjà été guéri du cancer. Amen. Hein? Et tu as des personnes ici qui croient que tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Et c'est une bonne chose d'être dans une église comme cela. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que vous et moi, nous avons chacun de nous besoin de prendre une décision. Nous allons pas mourir avant d'avoir accompli le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Mais regardons Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Alléluia. Combien de vous, vous êtes prêts à faire la volonté de Dieu? Amen. Éphésiens chapitre 2 et verset 10, un autre verset qui m'interpelle depuis des longues années et que je cite souvent et je médite tout le temps. Et en Éphésiens chapitre 2, verset 10, il dit que quelque chose d'extraordinaire, il dit « car nous sommes son ouvrage ». Et on était créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Hein? Nous sommes son ouvrage. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous sommes son ouvrage. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance. Laisse-moi vous dire, vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan et son plan est détaillé. Hier, on était à Montréal pour une rencontre avec plusieurs de nos diplômés de l'école biblique de Réma Québec et on passait juste à côté du pont Champlain et on regardait le nouveau pont qu'ils sont en train de construire. Combien de vous, vous avez vu le nouveau pont? Et imaginez le plan que ça prend pour pouvoir, tous les détails qui sont nécessaires pour construire un pont comme cela. Et maintenant, imaginez les détails qui sont nécessaires pour planifier l'existence de la race humaine et chaque personne, chaque individu et comment chaque partie du corps doit être coordonnée et collaborée afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie sur la planète Terre. C'est quelque chose. Dieu a un plan extraordinaire. Amen. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens vont passer toute leur vie sans marcher dans le plan de Dieu. On voit ici que nous sommes son ouvrage et été créé en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance. Il y a quelques versions qui disent que nous marchons dans les chemins qui sont déjà tracés. Et les chemins qui sont déjà préparés, nous n'avons qu'à y marcher. Notre devoir, c'est de marcher dans le plan que Dieu a déjà mis en place, de marcher sur le chemin. Vous savez, c'est beaucoup. On est arrivé dans quoi 45 minutes de Drummondville à Trois-Rivières aujourd'hui. Ça s'est bien passé. On a pris l'autoroute 20. Et puis, laisse-moi vous dire, sur le bord, l'autoroute, il y a tout ce qui est nécessaire pour faire un voyage. Hein, si tu as besoin d'essence, c'est au bord de la route. Si tu as besoin de manger, c'est au bord de la route. Tout est là, vraiment sur le chemin qui est déjà tracé. J'aurais pu juste quitter ma maison à pied et avec une boussole, direction Trois-Rivières, commencer à marcher et je serais perdu dans le bois quelque part. Hein? Ça prendrait beaucoup plus de temps que de prendre la route qui est déjà en place. Et c'est la même chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui essaient de leur propre gré à marcher dans cette vie, à faire des choses dans cette vie. Et il y a un chemin qui semble être bon à l'homme, la Bible dit, mais son issue, c'est la mort. Et il y a beaucoup de gens qui essaient d'être le maître de leur propre destin. Ils essaient de gérer leur propre vie. Et ils veulent juste faire leurs choses et demander Dieu au secours. Ça marche pas. Et donc, au lieu de consulter son plan, au lieu de suivre son plan, au lieu de marcher tout simplement dans le chemin que Dieu a déjà tracé, ils se perdent, si vous voulez, en cours de route. Et ça, c'est vraiment triste, c'est de valeur et c'est pas nécessaire parce que Dieu a déjà un plan. Et son plan est déjà béni. Donc, arrêtons de faire nos propres projets et de demander à Dieu de bénir nos projets. Vaut mieux trouver le plan de Dieu et marcher dans son plan qui est déjà béni, qui est déjà garanti à réussir. Amen? Il faut donner naissance à son plan, mais avant de donner naissance à son plan, il faut tomber enceinte avec son plan. Amen? Regardons, on va regarder un exemple de cela ici en Luc chapitre 1. Est-ce que ça vous aide ce matin? On va finir ce matin avec trois choses vraiment pratiques qui vont vous aider à marcher dans le plan de Dieu et donner naissance au plan de Dieu pour votre vie. Mais ici, on voit l'histoire d'une personne qui a littéralement donné naissance au plan de Dieu pour sa vie. On parle de Marie, la mère de Jésus. Vous savez que si on peut, le problème souvent, c'est que nous connaissons la Bible et nous connaissons la fin de l'histoire. Et des fois, on oublie quand on lit la Bible que les personnages qui sont dedans, ils n'avaient pas une copie du Nouveau Testament entre leurs mains. Marie, dans l'histoire qu'on va lire rapidement ce matin, elle n'avait pas vraiment un moyen naturel de savoir comment la chose allait finir. Mais ici, en Luc chapitre 1, nous voyons une jeune fille adolescente. On ne sait pas exactement quel âge elle avait, mais elle était une jeune fille adolescente qui était censée de épouser Joseph dans pas longtemps. Donc, probablement, comme la plupart des filles fiancées, elle rêvait à sa robe de mariage, aux fleurs, aux gâteaux de noces. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va manger? Oh, ça va être merveilleux. Elle rêvait de la petite demeure qu'elle allait avoir avec Joseph, les enfants qui viendraient par la suite. Comme la plupart des filles juives à cette époque, elle avait probablement les mêmes genres de pensées. Mais tout d'un coup, Dieu va arriver et déranger le plan de Marie pour introduire son plan qui est infiniment meilleur. Et est-ce que vous êtes prêts que Dieu vient déranger votre plan? Regarde bien qu'est-ce qui se passe, parce que j'aime tellement cette histoire. Ici, en verset 26 de Luc chapitre 1, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Mais troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, et Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de David éternellement, et son règne n'aura point fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Laisse-moi vous dire, première chose, quand l'ange lui parle, elle est troublée par cette parole. Troublée par cette parole. Et le mot « parole » dans le grec ici, c'est le mot « logos ». Il y a quelque chose que Dieu avait déjà écrit dans les cieux à propos de la vie de Marie. Avant qu'il a dit que la lumière soit, il savait, et il avait même révélé au prophète en Ésaïe 7:14, il y a une prophétie qu'une vierge va tomber enceinte et donner naissance au Messie. Et probablement, Marie était au synagogue, elle a peut-être entendu Ésaïe, la lecture d'Ésaïe, ça passait au-dessus de sa tête, elle ne savait pas que ça parlait de elle, mais Dieu avait écrit dans les cieux, avant la fondation du monde, un logos, une parole pour Marie, mais Marie ne savait pas. Et au début, elle était troublée par la parole. Laisse-moi vous avertir. Quand vous commencez à avoir un petit aperçu de ce que Dieu veut que vous fassiez sur la terre, ça peut vous troubler parce que ça va être beaucoup plus grand et beaucoup plus merveilleux que vous aurez pu imaginer. Si le plan que vous avez pour votre vie est quelque chose qui est bien facile à faire, c'est certainement pas le plan de Dieu. Dieu vous demande toujours de faire des choses qui sont au-delà de votre force et votre capacité. Comme venir à Trois-Rivières, implanter une nouvelle église, commencer à zéro pour partir une nouvelle église. Hein? Plein de choses qui sont faites aujourd'hui et on regarde aujourd'hui et dit « Wow, il y a vraiment une église, vraiment une équipe de louanges, vraiment un local et tout. » Tout cela, ce n'était qu'une vision il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Amen. Et ce n'est que le commencement. Mais Marie était troublée par ces paroles et donc elle a dit, mais comment est-ce que ça peut être? Comment puis-je donner naissance à un fils? Je ne connais même pas d'homme et on n'a pas besoin d'un cours de biologie ici pour savoir que pour faire un bébé, ça prend certains actes, n'est-ce pas? Elle n'avait pas fait cet acte. Elle était vierge et elle était pas dans la possibilité naturellement de donner naissance à un enfant, mais la réponse à la question, c'est le Saint-Esprit. Amen. Tout le monde dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Et donc, mais regarde bien qu'est-ce qui se passe. Il continue, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et sa vieille est celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois, car rien est impossible à Dieu. Tout le monde dit rien n'est impossible à Dieu. C'est intéressant parce que, encore, je ne suis pas un érudit du grec, mais on a dit que Marie était troublée par la parole de l'ange. La parole, c'était le logos, ce qui est décrit dans les cieux. Dieu a écrit dans un livre déjà les jours qui sont destinés. Amen. Mais si on ne le sait pas, on ne peut pas marcher dans ces voies. On ne peut pas marcher dans ce plan si on ignore le plan, si on ne connaît pas cette parole. Et le mot « rien » ici, en réalité, c'est le mot « rhéma » qui est un mot qui veut dire littéralement « la parole déclarée ». Donc, qu'est-ce que l'ange est en train de dire? C'est que, oui, le Logos t'a troublé, mais rien n'est impossible à Dieu. Aucune parole déclarée par Dieu est sans pouvoir d'accomplissement. Aucune parole qui est déclarée par Dieu est sans pouvoir d'accomplissement. En autre mot, si Dieu t'a dit, Marie, que tu vas donner naissance à un bébé, tu vas donner naissance à un bébé. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole, le rhéma de Dieu. Quand Dieu déclare une parole. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la première chose qu'elle avait besoin, c'était une révélation. Elle avait besoin d'avoir une révélation qui venait de Dieu, de « Ah oui, je suis supposé de tomber enceinte par la vertu de Dieu et je vais donner naissance à un bébé qui va devenir justement le roi d'Israël et le roi de l'univers. » C'est toute une histoire. Alléluia. C'est pas mal plus grand que ses projets de noces avec Joseph, n'est-ce pas? C'est pas mal plus important que quelle couleur de robe ou quelle couleur de fleurs et quel gâteau est-ce qu'on va manger aux noces. Ça, c'est quelque chose de pas mal plus important. Elle va tomber enceinte et aucune parole déclarée par Dieu est sans pouvoir d'accomplissement. Et donc, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, verset 38, « Qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Et dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, elle fut remplie du Saint-Esprit. Et donc, elle commençait à prophétiser. Donc, on voit dans cette histoire quelque chose de super important. Quand Marie, elle a littéralement donné naissance au plan de Dieu pour sa vie. Comment? Premièrement, elle avait une révélation. Le Seigneur a envoyé un ange et l'ange a déclaré la parole de Dieu et cette parole a créé la foi dans son cœur. Elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta foi ». Donc, elle a reçu la parole. Elle avait une révélation. Elle avait une réception de la parole. Et ensuite, elle a fait quelque chose que je vous félicite parce que vous faites la même chose aujourd'hui. Elle est allée voir sa cousine Élisabeth. Elle se tenait avec une autre personne de foi. Elle se tenait avec une personne qui pourrait croire que Dieu est un Dieu qui fait l'impossible. Parce que Élisabeth était aussi une femme vieille qui est tombée enceinte, pas par la vertu de Dieu, mais quand même dans sa vieillesse, elle est tombée enceinte, elle donne naissance à Jean-Baptiste. Vous voyez l'importance d'avoir une révélation, d'avoir un cœur qui est prêt à recevoir et de tisser les relations avec les autres membres du corps de Christ qui vont vous encourager. Pas besoin d'être avec des personnes qui sont incrédules, qui ne croient pas que Dieu va faire des grandes choses. Non, tu as besoin d'être dans une église comme cette église qui va dire tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit.
Amen.
Amen. Parce que Dieu a un plan. Alléluia. Mais comment est-ce que je peux, d'une manière pratique, donner naissance à ce plan? Hein? Comment est-ce que je peux avoir une révélation de ces choses? Hein? Je veux que Dieu me révèle. L'ange a révélé le plan à Marie, mais on ne peut pas attendre qu'un ange vienne nous voir pour nous raconter son plan. Hein? Ça peut arriver, et ça arrive des fois dans le Nouveau Testament, mais c'est pas comme ça que la majorité des personnes dans le Nouveau Testament vont recevoir la direction ou la révélation. Hein? En fait, moi, je vais vous donner trois choses rapidement, avec trois histoires rapidement, qui vont vous aider. Combien de vous voulez vraiment trouver et donner naissance au plan de Dieu pour votre vie. Donc, la première chose, c'est il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que l'ange a raconté à Marie le plan. Mais nous n'avons pas besoin de la visite d'un ange. Nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et le Saint-Esprit nous montre les choses à venir. Et plus vous êtes rempli de l'Esprit, plus vous avez un esprit de sagesse et de révélation, plus le plan de Dieu va être révélé. Pourquoi est-ce que je suis au Québec aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous êtes assis sur ces chaises aujourd'hui? C'est parce que en 1989, j'étais en train de prier, ma femme et moi, on venait de faire un mois de ministère en France, on revenait au Missouri, aux États, le mois de novembre, et je passais la balayeuse, je faisais le ménage dans un petit bureau que j'avais dans la maison, et donc je priais en langue, et je chantais en langue, et je louais le Seigneur en autre langue. Et vous savez quoi? La Bible dit que celui qui prie en langue ne parle pas à l'homme, mais à Dieu, et il dit des mystères. Il y a des mystères que j'étais en train de prier et tout d'un coup, bang, c'était pas audible, mais dans mon cœur, j'ai entendu le Saint-Esprit dire, je veux que tu commences à prier pour le Québec, prie pour le peuple québécois. Je connaissais personne au Québec. J'avais jamais mis mon pied au Québec. Mais Dieu avait un plan. Aujourd'hui, ça fait quoi, 24 ans qu'on est là, on a exercé un ministère ici depuis des longues années, et qu'est-ce qui est encore mieux, c'est que trois de nos cinq enfants sont nés ici. J'ai une belle fille québécoise qui ne parle presque pas l'anglais, et j'ai la plus belle petite fille au monde aujourd'hui. Notre ADN est pour toujours lié avec le peuple québécois, gloire à Dieu. Mais ça, c'était un mystère pour nous en 1989. Mais plus vous êtes rempli de l'Esprit, plus vous allez avoir une révélation du plan de Dieu. Pas besoin d'attendre la visite d'un ange. Amen. Mais restez dans la parole et soyez rempli de l'Esprit. Priez en notre langue, priez les mystères. La parole de Dieu dit, l'Esprit lui-même nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais il nous aide avec des soupirs inexprimables. Et en fait, celui qui connaît la pensée de Dieu, il nous aide à intercéder pour tous les saints selon la volonté de Dieu. Donc, imaginez si chaque membre de cette église, à chaque jour, prenait du temps à prier dans l'Esprit, et comme ça, la révélation du plan de Dieu pourrait être donnée à chaque membre de l'église. OK? Mais, laisse-moi vous dire, c'est pas toujours quelque chose comme tu vas donner naissance au Fils de Dieu, ou tu vas déménager au Québec. Des fois, c'est beaucoup plus petit, mais c'est aussi important. C'est les petits pas qui vont préparer le chemin pour les grands pas. Amen. Et donc, c'est pourquoi la deuxième chose qu'on peut faire pour donner naissance au plan de Dieu, premièrement, soyez remplis de l'Esprit. Mais deuxièmement, soyez émus de compassion. Soyez émus de compassion. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens chapitre 5 nous montre que l'amour de Dieu nous presse. l'amour de Dieu nous presse. Laisse-moi vous dire, Dieu est amour. Et si vous voulez être à la bonne place, au bon moment, faisant la bonne chose dans votre vie, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'être rempli de la présence de Dieu et de laisser l'amour de Dieu vous propulser dans la bonne direction. Vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, vous êtes ému de compassion, vous vous approchez de la personne et vous laissez le Seigneur faire son œuvre. Hein? Vous voyez quelqu'un dans le besoin, il y a quelque chose qui vous pousse à partager de votre nécessaire avec lui et vous le faites, laisse-moi vous dire, ça va ouvrir la porte pour la volonté de Dieu. La compassion précède les miracles. Jésus, ému de compassion, on le voit encore et encore dans le Nouveau Testament. Jésus, ému de compassion, il guérissait les malades, il donnait le recouvrement de la vue aux aveugles, les boiteux ont marché, tout était suivi, c'était la suite de la compassion de Dieu. Amen? Ça m'est arrivé une fois, ma femme et moi, on était, il y a des longues années de cela, mais c'est un exemple extraordinaire. On était en France et dans les années 90, 91 en fait, plus précisément, dans la région de Vichy. Et on prêchait dans une église et on traversait un champ dans la campagne et j'avais besoin d'arrêter et faire le plein. Donc j'ai arrêté, j'ai fait le plein. Et donc j'avais vu, juste pas loin de station de service, un camp de gitans. OK? Il y avait des caravanes et tout dans le champ. Et j'avais vu cela, juste j'ai remarqué. Mais j'ai fait le plein, j'entre dans le magasin pour payer et je me trouve en arrière d'une ligne d'une vingtaine d'hommes, des gitans, avec leurs fils. C'était juste les hommes et les garçons, les hommes et les garçons. Chaque homme avait une caisse de bière dans la main et chaque enfant avait un beurre de chocolat. Et ils attendaient payer pour cela. Je vais vous avouer qu'au début, ma chair était comme frustrée. Parce que ça va prendre du temps, je suis en arrière du fil, ça va long. Et donc, ma chair était un peu dérangée. Mais tout d'un coup, la compassion, l'amour de Dieu m'a saisi. Et c'est comme j'ai levé mes yeux et j'ai regardé ces hommes et j'ai aperçu la tristesse dans les yeux. Il y avait comme une ombre de dépression. C'était comme vraiment, vraiment une atmosphère de désespoir qui était parmi ce peuple. Et donc, la compassion de Dieu. Mais je ne savais pas quoi faire avec ça. Donc, j'ai payé. On a fait 15 minutes, 20 minutes de route chez le pasteur. Et donc, je regarde ma femme, je dis, chérie, il faut que je retourne. Il y a quelque chose, je suis ému pour ce peuple. J'ai pris l'auto, j'ai fait le 20 minutes, je me suis stationné sur le bord de la route et j'ai commencé à marcher vers le champ pour le camp de gitans. Et il y avait deux jeunes hommes dans les vingtaines qui m'ont rencontré. Ils ont, qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, mais je ne savais pas quoi dire. Sauf que la compassion de Dieu était là. Je dis, ça peut sonner drôle, mais je voulais juste que tu saches, je suis chrétien. J'ai vu le camp il n'y a pas longtemps et je voulais venir tout simplement vous dire que Dieu vous aime et il a un bon plan pour votre vie. Ah oui? Mais attends ici. Donc, j'attendais. Ils sont retournés au camp. Ils sont revenus avec le chef du camp, un monsieur qui avait 80 quelques ans. Et il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et j'ai dit la même chose. Il m'a regardé et dit, peux-tu me rendre en service? Quoi? Peux-tu revenir demain après-midi et dire cela à mon peuple? Oui. Donc, le lendemain, on arrive et dans le champ, ils ont installé à peu près ce nombre de chaises, peut-être 75 chaises, quelque chose comme ça. Ils avaient monté une petite estrade avec un système de son. Et donc, et là, ils m'ont invité à prêcher. Donc, on faisait une croisade en plein air. Et l'Esprit de Dieu est tombé. Les gens, surtout la jeunesse, ils pleuraient, ils venaient en avant. Ils étaient à genoux devant le Seigneur. Ils donnaient leur vie au Seigneur. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, je suis en train de vivre vraiment une de ces œuvres que tu as préparées avant la fondation du monde. J'aurais pas pu planifier cela. C'est la compassion de Dieu qui a fait cela. Amen. Donc, soyez remplis de l'Esprit. Soyez émus de compassion. Et finalement, soyez prompts à obéir. Si le Saint-Esprit vous donne un indice à quelque chose à faire, fais-le. Le premier miracle qui a été fait, Jésus a changé l'eau en vin. Mais c'est la maman de Jésus qui a dit, tout ce qu'il te demande de faire, fais-le. Jean chapitre 2. Tout ce qu'il lui demande de faire, fais-le. Tout ce que le Saint-Esprit vous demande de faire, fais-le. Et n'attendez pas, fais-le vite, parce que des fois on attend et on raisonne, oui, mais est-ce que ça va vraiment faire une différence, ou est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle, ou est-ce que c'est moi? Laisse-moi vous dire, est-ce que c'est le diable qui me demande de faire ça, ou est-ce que c'est Dieu? Petite parenthèse, le diable ne va jamais vous demander de faire du bien. Il ne va pas vous demander de témoigner de Jésus. Il ne va pas vous demander de donner une offrande. Il ne va pas vous demander de donner la nourriture aux gens. Vous comprenez? Arrêtez de raisonner et juste fais-le. Et encore, des fois, c'est des grandes choses. Va au Québec, va en Chine. Seigneur, j'irai là où tu m'envoies. Je ferai ce que tu veux que je fasse. Je dirai ce que tu veux que je dise. OK, mais est-ce que tu es prêt à faire un gâteau pour ton voisin? Non, mais envoie-moi en Chine. C'est bien plus facile de faire un gâteau. Tu comprends? Mais encore une histoire qui illustre bien cette histoire. Que je suis content. Aujourd'hui, j'ai texté Pasteur Brian. J'ai dit, c'est quoi le code vestimentaire? Hein? Est-ce que jeans et chemise propre, c'est bien? Ou est-ce que ça prend une cravate et tout cela? Et il m'a bien répondu que les jeans sont corrects. J'ai dit, j'aime ton code vestimentaire. Si vous aimez les cravates, c'est bien, c'est parfait. Et autrefois, j'en portais toujours, mais je suis libéré. Amen. Amen. Et j'aime bien. Mais un jour, ma femme et moi, on était dans une conférence missionnaire en Virginie avec 2-3 autres missionnaires dans une église locale en Virginie aux États. Et c'était une conférence qui durait quoi? 2-3 jours, je ne m'en souviens plus exactement. Mais on était rendus au moins la deuxième journée. Et un matin, on se réveille. Et on se prépare pour aller. Et pendant cette conférence, les gens, ils avaient des vestes, mais personne ne portait une cravate. Aucun autre missionnaire ou le pasteur ne portait pas de cravate. Mais ce matin-là, j'ai ressenti dans mon cœur, comme une poussée, j'ai comme quelque chose me disait, un témoignage intérieur, mais une cravate. Et ma tête disait, je ne veux pas mettre une cravate. Deuxième fois, mais une cravate. Je ne veux pas mettre une cravate. Le pasteur ne porte pas de cravate. Personne d'autre porte une cravate. Ça ne me tente pas de mettre une cravate. La troisième fois, j'ai eu, mais une cravate. Et quelque chose dans mon cœur disait, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Seigneur, est-ce que tu veux que je mette une cravate? Et encore, ce n'est pas le genre de choses qui arrivent à tous les jours, OK? Je ne suis pas le genre de personne qui va prier le matin, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je mange ce matin? Est-ce que tu veux que ça soit des Cheerios? Ou est-ce que c'est shredded wheat? Ou est-ce que... non, mange bien, mange santé, mais souvent le Seigneur, je pense qu'il te donne libre cours pour choisir ton repas. Vous comprenez? Donc, il y a des personnes qui tombent dans l'extrême et ils prient pour tout. Et oh, le Saint-Esprit m'a dit que je dois... Ouais, mais en tout cas. Bref, mais cette journée-là, c'était différent. C'était vraiment, vraiment de l'Esprit de Dieu. Et donc, j'ai dit, OK, Seigneur, j'ai mis la cravate. Malgré ma chair, j'ai mis la cravate. Donc, on était en route pour l'église. On avait besoin d'arrêter chez Walmart. Je ne sais pas pourquoi, on avait une petite commission d'affaires à Walmart, je ne m'en souviens même pas c'était quoi. Donc, on arrête, ma femme a resté dans l'auto, je dis, bon, moi je vais aller vite chercher cela, et je reviens, on s'en va à l'église. Donc, je marchais vite, j'avais quelque chose dans ma tête, mais tout d'un coup, en marchant dans le magasin, j'entends une voix en arrière de moi, « Monsieur, monsieur, excusez-moi. » Et je tourne, il y a un jeune homme, encore une vingtaine d'années, je ne sais pas quel âge exactement, et il m'a dit, je m'excuse, monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider? Je dis, oui, oui, qu'est-ce que vous voulez? Mais je remarquais qu'il était là avec une cravate dans la main. Il a dit, monsieur, je ne veux pas vous déranger, mais mon grand-père est décédé et aujourd'hui, c'est son service funéraire. Et j'ai besoin de mettre une cravate, mais je ne sais pas comment faire le nœud, mais j'ai vu que vous avez une cravate. Est-ce que vous pourrez peut-être venir me montrer comment faire le nœud pour la cravate? Et je dis, oui. Et je savais tout de suite, ça c'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de mettre une cravate. Bon, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que là, on trouve un miroir, je lui montre, il commence à parler avec moi et il dévoile son cœur, il pleurait, il me parlait de combien il aimait son grand-père et comment il allait vraiment s'ennuyer de son grand-père. Et donc, c'était une porte ouverte pour parler de Jésus et la vie éternelle et il était très ouvert. J'ai vraiment prêché le simple message du salut. Il était touché. Mais par la suite, il a arrêté et il a dit, « Monsieur, j'ose presque pas le demander, mais je voulais savoir si vous pourrez me faire un autre vraiment grand service. » Et là, quand quelqu'un vous pose une question comme ça, vous faites attention de ne pas dire oui. Vous dites, mais ça dépend, c'est quoi? Hein? Est-ce que tu vas me demander mon char, ma maison, quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez demander. Mais qu'est-ce qu'il a demandé? C'était vraiment quelque chose. Il a dit, vous savez que le service funéraire, c'est cet après-midi à telle heure. Est-ce que vous pourrez me faire l'honneur de venir assister au service funéraire de mon grand-père? Là, je suis dans une ville que je ne connais pas du tout, dans un état que je ne connais pas du tout, avec un jeune homme que je ne connais pas du tout, et je suis invité à assister au service funéraire de son grand-père. J'ai dit ça au pasteur, j'ai dit, bon, il m'a donné l'adresse, on est allé à l'église, j'ai dit, « Hey, pasteur, je suis invité à un service funéraire. Le problème, c'est que je ne connais pas la ville, je ne sais pas où c'est cette adresse. » Il a dit, « Pas grave, je vais aller avec toi, je vais t'accompagner. » Donc après notre service, on est allé au salon funéraire, et donc le jeune homme est dehors et il nous attendait. Et quand on est sorti de l'hôtel, il était ému, il a dit, « Ah, tu es vraiment venu. » Il était tellement content de nous voir. « Ah, viens, je veux vous présenter à ma famille. » Donc, on entre dans la salle, et c'est une grande salle à peu près comme ça. Il y avait, je ne sais pas, entre 100 et 150 personnes debout dans la grande salle. Et donc, on entre dans cette salle avec ces étrangers. Et il dit, « Bonjour tout le monde, je m'excuse, je veux vous présenter à mon nouveau ami. » Et donc, il me tourne comme ça et dit, « Est-ce que vous pourrez leur dire ce que vous m'avez dit à Walmart à propos de Jésus? » Donc, j'avais 150 personnes devant moi qui me regardent, qui m'écoutent. Et donc, là, je prêche l'évangile de Jésus-Christ à cette famille des étrangers. C'était vraiment quelque chose, hein? Comment est-ce que ça s'est passé? Une petite obéissance, mais une cravate. Il y a 2 semaines, on était dans une conférence. Et en Oklahoma, à l'école biblique où on a fait l'école, Pastor Brian connaît cela, mais il y avait un missionnaire que nous connaissons depuis des longues années qui racontait un projet qu'il voulait faire en Inde. Et lui, c'est un gars qui fait du surfing et du ski, du snowboard. Il fait cela et il évangélise avec cela. Vraiment, c'est un ministère extraordinaire. Mais il a une chose avec les motos et le motocross qu'ils vont organiser. Et avec l'Internet, ils vont atteindre plus de 1 million, 10 millions, je pense qu'ils ont dit. Ils attendent 10 millions de jeunes de l'Inde qui vont regarder ça. Et dans mon cœur, j'ai poussé l'esprit, dit, demande-lui combien ça va coûter. J'ai dit, combien est-ce que ça va coûter? Il a dit, bon, ça va coûter 120 000 $. Et le Saint-Esprit m'a dit, donne-lui 120 $ et tu vas être le premier des 1000 personnes qui donnent 120 $. Et je dis à ma femme, on est allé à l'église cette soirée-là, c'est comme, j'ai vraiment, il faut que je le fasse là. Donc, j'ai trouvé son chose sur l'Internet, j'ai fait un don sur l'Internet. Il était assis ailleurs, il y avait des milliers de personnes dans la salle, mais j'ai fait un don de 120 $. Et sa femme est venue nous voir après, il a dit, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé? On était assis là, et il y a un autre pasteur qui connaît notre projet, qui était assis à côté de moi. Quand ils ont vu sur le téléphone le 120 $ qui est venu, le pasteur a dit, « Ah, ça c'est le premier 120 de 1000 personnes qui vont donner 120 $ Et dans la soirée, il y avait 6 autres qui ont fait la même chose. Donc, c'est le Saint-Esprit qui parle, et quand il vous parle, il faut le faire, il faut le faire vite. Amen. Combien de vous voulez donner naissance au plan de Dieu pour votre vie? Est-ce qu'on peut se lever et puis on peut avoir la musique? On va prier ce matin. Allez, est-ce que ça vous a encouragé ce matin? Parce que vous savez que moi, je crois qu'on doit démystifier qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que ça signifie de marcher avec Dieu et de faire le plan de Dieu pour sa vie. Si on est vraiment en amour avec Jésus, si on est rempli de l'Esprit, et être rempli de l'Esprit, ce n'est pas une chose qu'on fait une fois. On reste rempli. Hein? Combien de vous avez déjà mangé cette semaine? Ah, oh, il y en a. Vous êtes tous à jeûne? Non. Combien de vous avez déjà mangé? Oui. Avez-vous l'intention de manger la semaine prochaine? Ah ah, il faut faire le plein, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà mis du gaz dans l'auto cette semaine? Oui. Peut-être dans 3 mois, penses-tu que tu aurais besoin de faire encore? Ou 3 jours? Ou 3 heures? Je ne sais pas. Non, mais la même chose, quand on est rempli de l'esprit, c'est une chose, c'est un style de vie. On est rempli et on reste rempli. On est continuellement rempli. On peut être continuellement ému de compassion. Jésus a dit, ne dites pas qu'il y a 4 mois et ensuite la moisson, il dit, levez les yeux, regardez les champs qui sont déjà blanchis. Si on peut juste lever les yeux, dit Seigneur, montre-moi les gens qui sont dans le besoin et laissez l'amour de Dieu, la compassion de Dieu nous émouvoir. Et puis, quand on est vraiment prompt à obéir, le Seigneur dit, va parler avec telle personne. Va dire bonjour à telle personne. Des fois, on n'a pas besoin de prêcher de Genèse à Apocalypse. Des fois, on a juste besoin de dire, hey, tu sais quoi? Jésus vous aime. Une petite parole peut faire toute une différence. C'est une semence puissante. Alléluia. Mais on va prier ce matin. Mais avant de prier, pour que le plan de Dieu soit accompli, une chose que je me suis engagé devant le Seigneur il y a des longues années que je ne laisse jamais passer en dimanche matin où j'apporte la parole sans donner l'occasion aux personnes présentes de donner leur vie au Seigneur Jésus. Parce que je ne vous connais pas tous. J'ose croire que la majorité, si peut-être pas tout le monde, peut-être vous avez tous donné votre vie au Seigneur Jésus. Mais s'il y a quelqu'un ici ce matin, et si vous êtes honnête avec vous-même et avec Dieu, si aujourd'hui c'est votre dernière journée sur la terre, vous prenez votre dernier souffle, est-ce que vous avez la certitude, sans aucun doute, que vous allez passer l'éternité au ciel? Est-ce que vous savez, sans aucun doute, que vous êtes pardonné de vos péchés, que vous avez une place réservée pour vous au ciel? Si vous n'avez pas cette assurance, j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, je vais compter à 3. Et si vous êtes là et vous dites, « Pasteur, honnêtement, je ne sais pas si je suis sauvé ou non. Je ne sais pas si j'ai cette vie éternelle. J'espère, mais je ne sais pas. » Vous pouvez savoir sans aucun doute aujourd'hui. Donc, je vais compter à 3. Et si vous êtes là, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ou peut-être vous l'avez faite dans le passé, mais vous vous êtes vraiment éloigné de lui et vous voulez revenir vraiment en communion avec Jésus aujourd'hui. Je vais compter à 3. Si vous êtes là, vous voulez faire cela, juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut donner sa vie à Jésus ou revenir à Jésus-Christ? 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Je vais vous demander à faire quelque chose de difficile, mais vous êtes dans un endroit où les gens vous aiment. Mais viens me voir. Viens, on va prier ici. Je vous demande de faire cela parce que Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je vais te renier devant mon Père. Donc, ça prend du courage. Je ne veux pas vous embarrasser. Mais il y a quelque chose qui est déclenché. Ça va te donner plus de confiance quand vous êtes avec les gens qui ne croient pas en Jésus, de oser dire, tu sais quoi, je suis croyant. Je crois en Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de lui. Amen. On va faire cette prière. Juste répète après moi, s'il vous plaît, tout le monde. Père Céleste, je viens à toi et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort pour moi et qu'il est ressuscité. Je crois que tu habites dans mon cœur, que tu as fait de moi une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur, je suis sauvé de mes péchés. Je suis dans ta famille, tu es mon Père et je suis ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Deuxième chose que je veux faire, et ça ne prendrait pas beaucoup de temps, parce que vous savez que les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais si vous êtes là ce matin et vous n'avez pas encore reçu cette deuxième expérience, après la nouvelle naissance, Jésus a parlé d'une autre expérience qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. En fait, il a dit à ses disciples, vous êtes témoins de ces choses, mais attendez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et on voit que même en Actes chapitre 8, Philippe est allé prêcher la parole de Dieu. Les gens ont cru, ils ont été baptisés, il y avait beaucoup de joie dans la ville. Ils étaient sauvés, le Saint-Esprit habitait dans le cœur de ces personnes qui avaient cru, qui ont été baptisées. Mais quand les apôtres à Jérusalem ont entendu cela, ils ont envoyé Pierre et Jean pour qu'ils aillent dans la ville, pour qu'ils prient pour ces gens, afin qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Amen. En Actes chapitre 19, verset 6, Paul a trouvé des disciples de l'apôtre Jean et il expliquait le baptême au nom de Jésus-Christ. Et donc, il parlait d'être rempli du Saint-Esprit. Ils ont dit, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et donc, la parole de Dieu dit en Actes chapitre 19, 6, quand Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont parlé en langue et prophétisé. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un don qui appartient à chaque chrétien. Actes chapitre 2, la première fois que les chrétiens ont parlé en langue, en fait, ils ont dit que la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, il appellera. Donc, si vous êtes appelé par le Seigneur, vous avez accès à ce don et cette puissance. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que ça vous aide à prier au-delà de votre intelligence, des choses que vous ne savez pas, mais que le Saint-Esprit sait. Comme moi et ma femme, on ne savait pas que le Québec, était dans le plan de Dieu pour nous. C'était un mystère, mais c'était la prière en notre langue qui a révélé ce mystère. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de cela et qui veut le recevoir, j'aimerais juste vous inviter à venir tout de suite et on peut prier pour vous pour recevoir ce don. Amen. S'il y a quelqu'un. Peut-être vous l'avez déjà eu. Mais sinon, on peut prier pour vous ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père Céleste. Donc, vous avez tous donné votre vie à Jésus déjà, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le seul critère. Parce que Jésus a dit, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Mais si vous êtes en Jésus-Christ, vous n'êtes plus dans le monde, vous êtes en lui. Et ce don vous appartient. Et je veux vraiment démystifier. Ce n'est pas quelque chose de bizarre. C'est vraiment simple. Et écoutez-moi bien. Voici la réalité. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Dieu est un seul Dieu, mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est un être triune. Vous êtes un être triune. Vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous habitez dans un corps. Et la Bible dit que quand tu pries en langue, Paul a dit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière. L'esprit, c'est le fort intérieur. Mais mon intelligence demeure stérile. Mon âme, mes émotions, demeurent stériles. C'est-à-dire que quand tu pries avec ton intelligence en français ou en anglais, il y a des mots que tu vas penser dans ta tête. Et puis, ces mots vont sortir de ta bouche. Quand tu pries en langue, tu laisses le Saint-Esprit te remplir. Et il ne faut pas penser à ce que tu dis. Il ne faut même pas écouter ce que tu dis parce que tu ne vas même pas comprendre. Ça peut être comme le langage d'un bébé. Mais c'est bien parce que Paul a dit, que ferais-je donc? Je prierai avec mon esprit en langue, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Pour lui, c'était peut-être hébreu ou grec. Pour toi, ça peut être français, anglais, espagnol ou une autre langue. Et c'est bien, on peut prier avec la tête, mais on peut aussi prier avec le cœur. Et aujourd'hui, on va prier avec le cœur. On va laisser les... Et qu'est-ce qui est merveilleux? OK? C'est qu'il y a une partie que tu vas faire et une partie que Dieu va faire. En Actes 19, 6, j'ai déjà lu, Paul a imposé les mains. Le Saint-Esprit est venu sur eux et ils ont parlé en langue. Qu'est-ce que je vais faire? Ma femme va venir avec moi pour prier avec les femmes. C'est que nous allons faire comme Paul a fait. On va tout simplement vous toucher. Après avoir fait une prière avec l'intelligence, on va demander au Seigneur de nous remplir. Après ça, on va vous toucher comme Paul les a touchés. À ce moment-là, sachez que le Saint-Esprit va être sur vous. Peut-être vous allez ressentir quelque chose, mais probablement pas. Parce que c'est dans votre esprit, pas dans votre émotion. C'est par la foi qu'on croit que oui. J'ai eu l'imposition des mains, le Saint-Esprit est là, et maintenant c'est à votre tour d'ouvrir la bouche, votre bouche, de bouger votre langue, d'utiliser vos cordes vocales, et c'est vous qui parlez. Le Saint-Esprit ne va pas parler, vous allez parler. Si je veux prier en français, je dis, Père, Je t'aime, je te remercie. Si je veux prier en langue, je prends une décision et je commence. Korama shadebede sorabatarageste. C'est pas plus difficile, sauf que je comprends pas qu'est-ce que je dis en langue, mais Dieu comprend. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir? On va faire une prière. Répétez après moi. Après ça, dès qu'on vous touche, c'est votre point de contact. Juste commencez à louer le Seigneur, mais pas en français, pas en espagnol, pas en autre langue que vous connaissez, mais de votre fort intérieur. Commencez à dire à Jésus combien tu l'aimes de votre cœur dans une nouvelle langue. Amen. On va prier ceci. Père Céleste, je te remercie que je suis né de nouveau et que ton Saint-Esprit habite en moi. Aujourd'hui, je veux être rempli de ce même esprit. Je veux que ton esprit déborde sur moi. Le même esprit qui est en moi va me remplir et déborder sur moi. Et tu vas me donner la capacité de m'exprimer en autre langue. Je vais parler en autre langue et tu vas m'aider au nom de Jésus.